Et maintenant ?
Et oui, et maintenant ?
Maintenant, écoutez lire. Dans ses nouvelles d'abord parues dans la presse, Dino Buzzati, l'auteur du « Désert des Tartares », renoue avec l'art du fantastique, dont il est un maître incontesté, mêlant l'étrange et l'absurde avec brio. Voici aujourd'hui trois nouvelles extraites du recueil « Nouvelles inquiètes ». L'idée, sans titre, est le corrupteur. L'idée. Je détenais une idée merveilleuse. Les idées importantes, en général, vous viennent dans votre jeunesse. Et pourtant, jamais de ma vie entière, même dans mes vertes années, je n'avais conçu une idée aussi puissante. Je pensais, j'aurais beau l'abîmer, la maltraiter, il en sortira un roman formidable dont le destin sera de conquérir le monde. Puisque l'écriture est la seule chose au monde qui m'intéresse désormais, j'aurais dû me sentir heureux d'avoir à ma disposition une idée aussi divine. Eh bien non, une inquiétude, une hantise, d'étranges craintes. Provoquée par un doute, cette idée-là, est-ce bien moi qui l'ai eue ? Les idées, le plus crucial des problèmes pour nous qui vivons d'idées. D'où viennent-elles et comment se forment-elles ? Qui nous les donne ? Pourquoi, à certains moments, tombent-elles du ciel, l'une après l'autre, tandis qu'à d'autres, on n'entend plus parler d'elles? Les anciens avaient inventé les muses, et ils avaient tout à fait raison. Jamais je n'ai réussi à deviner où elles naissent. Il suffit de trois fois rien, le vol d'une feuille, un point de côté, un pas trébuchant, une bribe de chanson, une phrase en langue étrangère, le gémissement d'une porte, le titre d'un journal, une phrase tronquée, cueillie au vol dans la rue, le téléphone qui insiste au fond du couloir, un bruit sourd au loin, une phrase comprise de travers, le glapissement dans le jardin, là-bas, une phrase qu'on entend répéter 3, 4 ou 5 fois sans raison. Des années entières ne suffiraient pas pour établir la liste des moments propices aux idées, des moments que l'on ne peut pas prévoir. Égare à vous si vous vous mettez à les attendre, les yeux, les oreilles, l'esprit aux aguets. Ils ne se présenteront plus. Mais la superbe idée dont je suis en train de parler m'était venue en rêve. Il est rare que les bonnes idées vous viennent en rêve. Depuis que je suis tout petit, je suis un très grand rêveur. Et pourtant, en 4 occasions seulement, pas plus, mes rêves ont servi de point de départ à une nouvelle correcte. La plupart du temps, c'est bien connu, il est même très difficile de se rappeler ce dont on a rêvé. Au réveil, des histoires, des ambiances, des atmosphères, des intrigues d'une qualité exceptionnelle se racornissent, se délitent, se dissipent, disparaissent pour toujours. Dans le cas présent, il ne s'agissait pas exactement d'une histoire que j'aurais vécue dans mon sommeil. Et c'est justement pour cela que je m'angoissais en me demandant « Est-il vraiment sûr que cette idée m'appartienne ? Est-il vraiment certain que je puisse l'utiliser comme l'une de mes créations ?» Les choses s'étaient déroulées de la façon suivante. Je rêvais que je me trouvais dans le hall d'une auberge de montagne. J'étais sur le point de partir pour l'ascension de la Torre Circana, aiguille immense et dangereuse au pied de laquelle j'errais souvent la nuit, hantée par le désir d'en atteindre le sommet, ce à quoi je n'étais jamais parvenu jusqu'à présent. Tout au plus, avais-je atteint une fois la dernière saillie, en rêve bien entendu, en grimpant par une sorte de puits dont les parois instables étaient formées d'éclats de granit semblables à des tibias et des fémurs de mammouth. Donc, j'étais dans le hall de l'auberge, au milieu d'une quantité de gens, lorsque vint vers moi un de mes collègues, un nommé Félix Alessandrini, que j'avais perdu de vue depuis un bon bout de temps. Un homme cultivé, un peu trop intelligent, moqueur, fatigant de malice. Il était exactement tel que je l'avais connu une trentaine d'années plus tôt à Rome, au moment où je publiais, je m'en souviens, un recueil de poèmes, bien vite passé aux oubliettes, même si quelques personnes avaient essayé d'en faire un événement littéraire. Toujours maigre comme un clou, blondasse, légèrement courbé en avant, comme pour chercher la bagarre, avec ses petits yeux bleus qui ricanaient en permanence. Qu'avait-il fait pendant toutes ces années? Je ne l'avais pas revu depuis, et personne ne m'avait donné la moindre nouvelle à son sujet. Bref, Alessandrini s'approche et me dit sans préambule « Je viens juste de lire un très beau roman, un véritable chef-d'œuvre. » Et il m'en résume l'histoire. Voilà, et c'est justement dans cette histoire-là que se trouvait l'idée lumineuse. Je l'ai compris avec la plus grande lucidité avant même qu'il ait fini de me la raconter. Et à ce moment précis, je me suis réveillée. Quel prodige! J'étais éveillée, j'avais toujours présente à l'esprit, dans ses moindres détails, l'histoire que m'avait narrée Alessandrini. À toutes fins utiles, je me suis levée pour la noter sur un cahier. Et je me suis aussitôt lavée, habillée, gaie comme un pinson. N'étais-je pas le maître du monde? Plus je considérais cette idée, plus elle me paraissait parfaite, sans une faille, sans un interstice par lequel aurait pu se faufiler un souffle d'air. Si ce n'est que tout à coup me vint un doute. Cette trouvaille, c'était vraiment moi qui l'avais faite? C'est Alessandrini qui me l'avait dévoilée en s'introduisant dans mon rêve. Fallait-il penser qu'il était une création de mon esprit? Ou était-il arrivé là de son propre gré? Et comment exclure que dans la vie réelle, on ait pu publier un roman de ce genre, en Chine peut-être, ou en Terre de Feu? Un livre qui n'aurait pas encore été traduit dans des langues occidentales. Je me souvins qu'Alessandrini avait un don extraordinaire pour les langues. Autre hypothèse, c'était bien lui, Alessandrini, qui avait écrit ce roman. Bien que la chose parût peu plausible, étant donné que cet homme devait avoir à peu près mon âge et que ce n'est pas à nos âges que l'on s'improvise génie. Soyons clairs, toutes ces pensées obsessionnelles me causaient un certain ennui, mais je ne leur accordais pas plus d'importance que cela. Peut-être qu'Alessandrini était mort depuis déjà un bon bout de temps. Et puis ce rêve, je l'avais bel et bien fait, tout seul, hier. L'idée, Dieu merci, était entre mes mains et je la tenais bien serrée. Mais hier soir, j'ai bien failli être victime d'un infarctus en entrant à Bagutta, le restaurant littéraire milanais. Je l'ai reconnu tout de suite, le déplaisant Félix Alessandrini, assis à la célèbre table en L, vieilli, chauve, décati, mais arborant toujours son maudit rictus. En face de lui, il y avait une place libre. Je m'assois, le salue et prends les devants aussitôt. « Tu sais ?» « Alessandrini, il faut que je te remercie. Toi, évidemment, tu ne peux pas imaginer de quoi il s'agit. Tu ne sais rien de tout cela et pourtant, il y a une quinzaine de jours, tu m'as rendu un fier service. » Une lueur démoniaque dans ses petits yeux bleus, une étincelle sauvage. En riant par-dessus la table, il me saisit le poignet. « Non, non, ne te fais pas d'illusions. Je ne t'ai fait cadeau de rien du tout. Dieu sait comment, et j'en ai été étonné. Je t'ai rencontré en rêve, alors que j'avais presque oublié ton existence, tant d'années après. Il y a 15 jours précisément. Et j'ai eu envie de te faire du mal, tu me connais? Vous, les écrivains, toujours tellement jaloux, tellement envieux, te faire souffrir. Sur le champ, j'ai inventé avoir lu un livre extraordinaire. Mais le plus beau, c'est qu'il m'est venu à moi qui n'ai jamais réussi à écrire, je le sais bien, une seule page de quelque valeur. En rêve, il m'est venu cette idée merveilleuse dont je t'ai parlé. C'est ce que tu allais me raconter, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'était mon rêve, non? Et toi, tu t'y introduis. Et donc, toi aussi, à ce moment-là, tu m'appartenais. Et le sujet du roman, tout pareil? Il se mit à rire sans retenue. Et qu'est-ce que tu en sais que c'était bien un de tes rêves? Tu rêvais, je rêvais. Nous nous sommes rencontrés dans le hall d'une auberge en terrain neutre. Mais l'idée du roman, c'est moi qui l'ai eue, non? Et toi, tu étais là, à l'écouter? Qu'est-ce que tu crois, mon vieux? D'ailleurs, je l'ai déjà déposé chez le notaire, ne te fais pas de bile. Tu ne me souffleras pas le prix Nobel. sans titre. Excusez-moi si je vous raconte une de mes expériences personnelles qui date d'il y a bien longtemps. Enfant, avec ma famille, je passais les grandes vacances d'été dans notre vieille villa à 1,5 km de Belluno. C'était, et c'est encore, une maison plutôt grande, d'un aspect assez singulier, non pas tant par ses qualités architecturales que par les fresques qui couvrent entièrement les façades. On en a même décoré un long édifice d'aspect vaguement nordique qui constitue la limite septentrionale du jardin, édifice à cette époque inhabité qui servait uniquement de grenier et de cellier. Il est avéré que dans ce vaste grenier rôdait, durant les premières décennies de ce siècle, l'esprit d'un ancien fermier, un nommé Fontana, dont on entendait de temps à autre les pas cadencés et lourds. Mais comme il est de règle avec de telles présences, ces bruits se firent au fil du temps de plus en plus rares et de plus en plus faibles. Les nuits passées à guetter les manifestations du phénomène n'ont rien donné ces derniers étés. J'ai mentionné ce fantôme pour donner une idée de l'atmosphère qui régnait dans cette vieille demeure, surtout à certaines heures. Mon imagination d'enfant, notamment, était fortement sollicitée par la bibliothèque, essentiellement consacrée à des ouvrages historiques, dont le fond constitué par mon grand-père Augusto, puis enrichi avec beaucoup d'amour par mon père Giulio Cesare, comptait plus de 3000 manuscrits traitant de l'histoire de la région. Un jour, je me souviens, papa nous montra un grand livre relié qui devait dater du début du 19e siècle. Il y avait de grandes gravures sur double page représentant des insectes grossis dans des proportions extraordinaires. Et tout particulièrement monstrueuse était la puce, longue d'une quarantaine de centimètres au moins. C'était sûrement un livre de beaucoup de valeur. Après nous avoir laissé le feuilleter, mon frère aîné et moi, papa le remit à sa place sur une haute étagère. Bien sûr, nous, les enfants, n'avions pas l'autorisation de pénétrer dans ce Sancta Sanctorum. Mais le livre des insectes géants m'avait fasciné. Et un soir, profitant du départ de mes parents en visite dans le voisinage, je montais à la bibliothèque, grimpais sur une chaise et attrapais le volume. Il pleuvait, je me souviens. La maison était silencieuse. Par les trois fenêtres pénétrait la lumière grise du crépuscule qui peu à peu devenait plus faible. À genoux, sur le plancher, je dévorais des yeux les insectes fabuleux, la mouche, le grillon, les scarabées, le moustique et la puce. J'étais justement en train de contempler cette invraisemblable puce lorsque j'eus l'impression que ses pattes, incroyablement poilues, bougeaient tout doucement. Non, ce ne pouvait pas être un souffle de vent qui aurait fait onduler la feuille. Portes et fenêtres étaient fermées. Avec une certaine méfiance, j'effleurai la page de la main en regardant de plus près. Tout était normal. Dieu sait ce qui m'était passé par la tête. Pourtant, une étrange excitation m'avait gagnée. Ce livre avait quelque chose d'inquiétant. Mon premier réflexe fut de laisser tout en plan et de me précipiter en bas où la lumière à gaz avait sûrement déjà été allumée. Mais avant de partir, il fallait remettre le volume à sa place. Gare à moi si papa s'apercevait que je l'avais touché. Or, juste au moment où je faisais le geste de le refermer, l'horrible insecte, désormais une vague silhouette dans la pénombre grandissante, eut un sursaut, comme s'il s'efforçait de se dégager de la page. Alors une chose plus effrayante encore se produisit. Au moment où, pris de panique, je refermais le volumineux ouvrage de toutes mes forces, d'entre les pages me parvint un atroce craquement, le bruit répugnant que font les cafards quand on les écrase, mais multiplié par 100. D'un bond, je fus debout et saisi d'une frayeur indicible, je me jetai en hurlant hors de la bibliothèque, cherchant dans le noir le départ de l'escalier. Tata, la fidèle gouvernante, me vit arriver comme une furie dans la cuisine, complètement bouleversée. Je m'efforçais d'expliquer ce qui m'était arrivé, mais, bien entendu, on crut à une sorte d'hallucination. Il n'était pas rare que la nuit je me réveille en hurlant, en proie à d'effroyables cauchemars. Je suppliai Tata de monter tout de même dans la bibliothèque et de remettre le livre à sa place. Quant à moi, il était clair que je n'en avais plus le courage. Entre-temps, mes parents étaient arrivés. Je me cachais pour échapper aux questions embarrassantes. Je m'attendais à être punie. Papa allait trouver le livre sur le plancher, il allait m'interroger, j'allais devoir avouer. Mais pas du tout. Papa ne demanda rien, et pourtant Dieu sait combien il tenait à ses livres. Si bien que j'eus la tentation de tout raconter moi-même, spontanément. Or, le lendemain, le soleil brillait, et comme il arrive à tous les enfants, je n'avais plus aucun souvenir de cette mésaventure. Je retournai à la bibliothèque 2 jours plus tard, à un moment où il n'y avait personne. Par terre, ainsi qu'on pouvait s'y attendre, pas trace du livre des insectes. Mais il n'était pas non plus à sa place, sur l'étagère habituelle. Mon père l'avait-il caché? Quelqu'un d'autre l'avait-il pris? Quelques jours après, nous rentrâmes en ville. C'était en octobre 1917. Caporetto, l'invasion, la bibliothèque pillée par les Autrichiens et emportée à Vienne, puis après la victoire, restituée dans un état pitoyable. Ce grand livre, je ne l'ai jamais revu. Le corrupteur. Un matin, alors qu'il se rendait au bureau, Antonio Turba, 52 ans, éminence grise du gouvernement, posa le pied sur quelque chose de glissant et perdit l'équilibre. Il tomba à la renverse et il se serait probablement fait mal si un passant ne s'était précipité pour le rattraper. S'étant retourné pour le remercier, Turba se trouva face à un élégant monsieur d'une quarantaine d'années, au visage avenant, qu'il ne connaissait pas, et qui lui souriait cordialement. « Vraiment, je ne sais pas comment vous remercier, bredouilla-t-il. »« Il n'y a vraiment pas de quoi, répondit l'autre sur le ton désinvolte d'un homme très sûr de lui. « Sans vous, monsieur, j'aurais pris un mauvais coup, » répliqua Turba, qui se sentait presque dépité. « En quelque sorte, je vous ai sauvé la vie, hein ?» fit l'autre en éclatant de rire. Entre deux, tandis qu'ils échangeaient ses propos, s'était engagée une compétition fébrile pour ramasser le contenu d'une mince serviette qui avait échappé aux mains de M. Turba et s'était ouverte en tombant. « Non, non, je vous en prie, ne vous dérangez pas !» protestait le fonctionnaire, se précipitant pour s'emparer de 3 ou 4 feuilles de papier ministre qui semblaient être des documents bureaucratiques. Manifestement, il avait peur que l'autre pût voir ce qui était écrit, mais l'homme ne prêta aucune attention aux documents. De la serviette avait glissé en s'ouvrant une enveloppe pleine de timbres qu'il récupérait maintenant un par un. « Mais non, pour rien au monde, je ne peux accepter que vous... » disait Turba, fort embarrassé, et il se pencha à son tour pour ramasser les timbres. Ce qui le mettait mal à l'aise, c'était justement la courtoisie de ce monsieur. Jaloux de son intégrité de fonctionnaire, M. Turba ne voulait jamais se sentir débiteur de qui que ce fût. Bien que d'un caractère humble et modeste, il savait l'importance du pouvoir qu'il avait acquis au fil des années. Mais il savait aussi combien cette prérogative était fragile et vulnérable. Et sa plus grande préoccupation était d'en user comme il le fallait, d'où un culte de l'honnêteté qui confinait à l'obsession. À la seule idée que quelqu'un pût le soupçonner, pas même d'une indélicatesse, mais d'une quelconque manifestation de partialité ou de favoritisme, il frémissait. Et pour éviter que se présentât la moindre occasion, il vivait pratiquement comme un ours. Rien ne lui déplaisait davantage qu'un cadeau, une invitation, un service rendu. Ne jamais accepter la moindre faveur, c'était sa devise, car les faveurs sont la première étape de la corruption. Ne pas les accepter, mais ne pas en faire non plus, parce que celui qui les reçoit est enclin à les rendre, et c'est un cercle vicieux. C'est ainsi qu'il avait acquis une réputation de misanthrope. Pour ce qui était des distractions, il se contentait de bien peu, une collection de timbres, un chien et des parties de pêche à la belle saison. Ce jour-là, Tourba aurait presque préféré se retrouver à l'hôpital, la tête en mille morceaux, plutôt que de se sentir débiteur de ce monsieur inconnu. Il ne parvint malheureusement pas à écourter la conversation. L'homme lui demanda s'il se dirigeait vers le centre. Tourba ne put le nier. L'autre dit que c'était aussi sa route et il lui emboîta le pas tout en discutant. « Une cigarette, peut-être ?» Et il tendit un paquet. « Non, non, merci, » fit Tourba. « Le matin, je ne fume jamais. » Mais au fur et à mesure que l'autre parlait, le malaise du fonctionnaire se dissipait. Il était rare de rencontrer quelqu'un d'aussi sympathique et discret. Il parlait de lui, disant qu'il partageait ses journées entre la ville et la campagne, où il possédait une propriété, qu'il n'était pas marié, etc., etc. Mais en général, les gens qui font beaucoup de confidences sans qu'on leur ait rien demandé sont aussi ceux qui se montrent très curieux des affaires des autres. L'inconnu, au contraire, ne posa aucune question, quelle qu'elle soit. On aurait dit qu'il n'avait absolument rien à faire de Tourba. Ils arrivèrent sur la place, juste devant le gouvernement. Tourba, qui n'avait pas encore prononcé le moindre mot, hésitait à prendre congé et à entrer dans l'immeuble, car ainsi il aurait révélé la nature de son métier. Heureusement, l'autre le devança. « Excusez-moi, dit-il, il faut maintenant que je vous quitte. Vous permettez ? Voici mon nom. » Et il lui tendit une carte de visite. « Oh, enchanté !» répondit Tourba en fouillant dans son propre portefeuille. « Pardonnez-moi, j'ai bien peur de ne pas avoir de carte. Je m'appelle Tourba. Grand merci pour tout. « Allons donc !» fit l'autre en riant et il disparut dans la foule. Sur la carte, il y avait écrit « Comte Valerio Kinocéphalos ». Quel drôle de type, se dit Antonio Tourba. Jamais vu quelqu'un d'aussi peu curieux. Je parie qu'il n'a même pas compris mon nom. Et cela lui laissa un sentiment de malaise, comme un vide, comme quelque chose d'inachevé qui ne pouvait trouver son accomplissement sur l'heure. Peu après, depuis la galerie intérieure, d'où, à l'abri des regards, il supervisait chaque jour la succession des audiences, il scruta longuement la foule inquiète qui fourmillait en bas dans le hall d'entrée. Des gens pour la plupart bien vêtus, impatients d'être reçus, chacun ayant ses illusions et ses angoisses. Mais le comte Kinocéphalos n'était pas là. Il le rencontra, quelle coïncidence, le jour suivant, dans le bar où il allait prendre son café de l'après-midi. « Ah, bonjour, monsieur Tourba, que puis-je vous offrir ?» Se sentant déjà redevable, le fonctionnaire réagit avec vivacité et se garda bien de rectifier son nom. « Ah non, 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 non !» « Vous, plutôt, dites-moi ce que vous prenez. » Le comte se montra docile. « C'est très aimable, merci. Je prendrai un bon café. » Tout en parlant, cependant, il sortit ses cigarettes. « Puis-je vous en offrir ?» Tourba voulait à tout prix s'acquitter de sa dette et non contracter de nouvelles obligations, aussi minimes fussent-elles. « Merci, » répondit-il. « Celles-ci sont trop fortes pour moi. Mais j'en ai des plus légères, des Suisses, les voilà. » « Sans façon, » fit Tourba, « pour tout vous dire, j'ai arrêté de fumer. »« Ah, très bien. Moi aussi, j'aimerais bien en être capable. »« Et depuis combien de temps ?»«
Depuis quelques heures, » répondit Tourba d'un ton glacial, en pensant, « s'il se vexe, tant pis pour lui. Comme ça, au moins, il se décidera à me laisser tranquille. »
Le comte ne releva pas l'impolitesse, et souriant, il sortit de sa poche quelques enveloppes. « À propos, monsieur Tourba, vous, qui vous y connaissez en timbre. Regardez un peu là-dedans, si par hasard il y a quelque chose qui vous intéresse. Moi, je ne fais pas collection. » « Mais moi non plus, vous savez, » répliqua-t-il immédiatement, mentant pour ne pas avoir à accepter un cadeau. « Les timbres que j'ai fait tomber par terre hier étaient destinés à un de mes neveux. Ah, je croyais que... Non, non, pas moi. Quand j'étais jeune, bien sûr, moi aussi, comme tout le monde. Mais c'est du passé maintenant. » C'était des timbres de la poste aérienne d'Uruguay, une série nouvelle qu'il ne connaissait pas. L'espace d'un instant, Tourba fut tenté. « Après tout, pensait-il, ce comte Kinocéphalos m'a tout l'air d'un bon diable, un naïf. Il ne connaît même pas mon nom exact, il ne sait même pas qui je suis. Il ne viendra jamais au gouvernement pour m'importuner. » L'excuse du neveu aurait même pu lui permettre d'accepter, puis il se laissa gagner par son habituelle lâcheté. « Non. » Jamais de cadeau de la part des étrangers. Le jour suivant était un dimanche, une splendide journée,
et Tourba partit pêcher. Avec son petit véhicule utilitaire, il avait déjà quitté la ville lorsqu'il vit une voiture immobilisée et un mécanicien occupé à trafiquer dans le moteur. Et au milieu de la rue, un homme qui faisait signe de s'arrêter. Il s'arrêta. Il eut l'agréable surprise de reconnaître Kinocéphalos. « Ah, c'est toi aujourd'hui qui as besoin de moi, en dehors du bureau, pensa-t-il. Je vais enfin pouvoir m'acquitter de mes dettes. Je vais te prendre à bord, t'accompagner là où tu veux, même au bout du monde. Ensuite, nous serons quittes, si Dieu le veut. » Le comte, d'excellente humeur malgré la panne de voiture, parut content de rencontrer M. Tarba, et il lui demanda de le conduire jusqu'au prochain village. Son chauffeur s'occuperait ensuite de trouver une voiture. « Non, non, dites-moi où vous vous rendiez, je vous y accompagne. »« Ah, j'allais à la pêche. »« Quoi ? Vous aussi ?» laissa échapper Tourba. « Non, vraiment ? Mais nous sommes collègues alors !» S'ensuivit un duel diplomatique. Tourba voulait absolument accompagner le comte sur le lieu où il se rendait. Le comte, « Ne vous donnez pas cette peine !» Tourba, « Mais tout le plaisir est pour moi !» Le comte, « Je ne voudrais pas abuser !» Tourba, « Vous n'allez pas me faire cette offense !» À la fin, Kinocéphalos céda. C'est ainsi qu'au lieu de se rendre au bord du canal habituel, Tourba, pour accompagner le comte jusqu'à un certain petit ruisseau, s'engagea sur des chemins difficiles dans un coin inconnu. Ils arrivèrent à une masure solitaire. De la masure sortit un paysan qui déchargea le matériel de la voiture et ouvrit la route aux deux messieurs. « Mais il y a un ruisseau par ici ?» demanda Tourba. « Il est juste là, » dit Kinocéphalos, « et vous allez voir ces truites. » Ils étaient arrivés sur le sommet d'une petite levée de terre. Tout de suite après, le terrain descendait en pente et, tout au fond, le comte avait dit vrai, coulait un petit cours d'eau. Ils s'installèrent au bord d'une anse ombragée, enserrée dans des murs de verdure. L'eau, très profonde, stagnait.
« Là, là, regardez !»
chuchota le comte Kinocéphalos. Au fond, parmi de ténébreux entrelacs d'algues, des formes tirant sur le blanc étincelaient à intervalles irréguliers, apparaissant puis disparaissant. Le cœur de Tourba se mit à battre. C'étaient des poissons et de dimensions extraordinaires. À peine eut-il lancé sa ligne qu'il eut l'impression qu'on la lui arrachait des mains. Il résista. Il sentit que cela tirait de façon formidable. « Zut alors » cria-t-il, incapable de réprimer son enthousiasme. Ce fut un combat long et exaltant. « Mais vous êtes un professionnel, vous êtes un champion !» ne cessait de répéter le comte pendant que, pour assurer sa prise, Tourba tournait doucement le moulinet. Puis la surface entra en ébullition. Tourba tendit l'épuisette, mais la proie était trop grosse. Le comte dut la saisir à pleine main. C'était une truite comme Tourba n'en avait jamais vu de sa vie. Elle devait peser au moins 10 kilos. Pourtant, son triomphe prit un goût amer. En enlevant l'hameçon de la bouche, il remarqua sur la queue de l'énorme bête quelque chose qui luisait au soleil. Il regarda mieux. C'était une petite couronne d'or. « Sainte Vierge !» balbutia-t-il, effaré. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» À l'évidence, Kinocéphalos l'avait emmené dans l'un des viviers ultra réservés de la maison royale, protégé par des lois impitoyables. Quiconque y pêchait sans autorisation risquait plusieurs années de galères et, dans certains cas, la potence. Le comte, cependant, ne s'était pas départi de sa bonne humeur. Bien plus, il riait, satisfait. Hé, Josué, cria-t-il, toi qui es un vieux braconnier, viens un peu voir par là ce poisson. Josué s'approcha, l'examina, cligna de l'œil. Peut-être vaudrait-il mieux, dit-il, confirmant le terrible pressentiment, lui couper la queue. Ces mots épouvantèrent Tourba. Allons-nous-en, supplia-t-il, et il regardait autour de lui au cas où les gendarmes arriveraient. « Allons, allons, courage !» fit Kinocéphalos. « Après tout, personne n'en saura jamais rien. Josué va couper la queue et ce soir, vous aurez un repas de choix. »« Ah, pas moi, j'ai peur. Je ne savais pas, je ne pouvais pas imaginer que... »« Par pitié, monsieur Tarba, n'en faites pas un drame. Personne n'en saura rien. » Jamais. À part toi, pensa Tourba. À part toi, charogne, et ton sous-fifre Josué, qui pourra témoigner pour toi. En toute hâte, ils regagnèrent la voiture, le paysan y chargea la truite, emballée dans une espèce de petit paquet de branchages et de feuillages. Sans dire un mot, Tourba démarra. Et, ce faisant, il pensait « Maudit comte, que le diable t'emporte! Je suis entre tes mains maintenant. Tu pourras me dénoncer, me déshonorer, m'envoyer aux galères. Heureusement que tu es un idiot et que tu ne sais pas qui je suis réellement. Heureusement que tu es riche et que tu ne fréquentes pas le gouvernement pour obtenir des passe-droits ou des exonérations. Tu es un idiot et ton idiotie me sauvera. » Lorsqu'ils furent arrivés en ville, sans encombre, il déposa le comte en le priant de garder la truite. Kinocéphalos accepta sans réticence et ils continuaient à rire, extrêmement amusés par la peur du cher monsieur Tourba. Mais le lendemain matin, à peine arrivé au gouvernement, monsieur Tourba, saisi d'un obscur pressentiment, se mit au balcon du grand vestibule d'entrée, où déjà s'entassait la multitude inquiète des postulants, des gens bien vêtus pour la plupart, impatients d'être reçus, chacun ayant ses illusions et ses angoisses. Il regarda et aussitôt il le vit. Au milieu de la foule, le comte Kinocéphalos riait et de la main droite il lui faisait signe, le saluait et semblait vouloir lui dire « Me voilà enfin, mon cher monsieur Tourba, et maintenant tu es mon esclave. J'ai besoin de toi, cher ami. J'ai besoin d'une quantité de choses, des affaires un peu difficiles, scabreuses même, compromettantes peut-être. Que diable si on ne cède pas un peu entre amis. Et puis je sais que tu m'apprécies, mon cher monsieur Tourba. Tu m'apprécies beaucoup et je suis sûr que tu m'aideras. Pas vrai, très cher ami, que tu m'aideras ? » Nous avons entendu de Dino Buzzati, extraite du recueil Nouvelles inquiètes, L'idée, sans titre, et Le corrupteur. C'était Écoutez lire. Une émission de Radio Alto.